France Musique. Et samedi 19 septembre, soyez les bienvenus sur France Musique. Davy Travailleur est à la réalisation. Swad Boukorsa et Emmanuel Rose à la technique, bienvenue. Dans cette émission consacrée à la culture, à l'écologie, au chant choral et à la musique bien sûr, alors voici le menu du jour. À 7h45, le claveciniste Jean Rondeau partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous offrira un peu de frivolité avec des groupes polyphoniques de l'Amérique des années 50-60. À 8h15, notre reportage, Sophie Anastasio, qui a assisté pour nous à la finale du concours Maestra hier soir, viendra nous en dévoiler les résultats. À 8h30, notre invité, le chef de l'ensemble correspondant, Sébastien Dessé, nous parlerons musique et écologie et de sa tournée à vélo de cet été sur les routes de Normandie. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous parlera du Gloria de Francis Poulenc. Très bon réveil. L'Aragonaise, extraite de l'acte 4 de Carmen, extrait de cette première suite Carmen de Georges Bizet avec l'Orchestre de Paris et Semyon Bichkov pour ouvrir cette émission. Les Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, journée dont le thème « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie » met en lumière des lieux d'éducation, de formation ou des ateliers de médiation autour de la découverte des arts et du patrimoine. L'occasion pour nous de jeter ce matin un œil au Centre de musique baroque de Versailles, qui a pour mission de faire rayonner la musique baroque française par le biais de la recherche, de la formation, des concerts, des spectacles. Eh bien, le centre ouvre ses portes ce week-end et propose des visites de l'hôtel des menus plaisirs où il a établi ses quartiers et ce, dès 14h, mais aussi des ateliers à 15h15, dès 15h15. Et puis à 16h, vous pourrez même assister à une répétition de la maîtrise pour assister donc, pour découvrir ce centre de musique baroque de Versailles dans le cadre des Journées du patrimoine. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site cmbv.fr. Les chantres du Centre de musique baroque de Versailles, ici aux côtés de l'ensemble Les Surprises et Louis Ney, Noël Bestion de Camboulas, dont ce cœur que tes plaisirs sont doux, extrait d'Issée, pastoral héroïque d'André Cardinal des Touches, une fable lyrique dans laquelle des nymphes légères entretiennent un commerce amoureux avec les dieux de l'Olympe. Tout un programme dans ce disque paru aux éditions Ambronnet. Et puisque j'évoque Ambronnet ce matin, parlons du Centre culturel de rencontres d'Ambronnet qui organise chaque année un magnifique festival. Festival d'Ambronnet, dont cette édition est intitulée Exploration au pluriel. Elle a démarré hier soir, se tient jusqu'au 4 octobre. Et si vous aimez la musique baroque, sachez que le festival propose une série baroque au cours. Le meilleur du baroque qui se déguste en une heure, des conditions idéales pour faire ses premiers pas ou pour initier les plus jeunes en famille. Le vendredi 25 septembre prochain à 18h et à 21h, la Capella Mediterranea de Leonardo Garcia Alarcón jouera d'ailleurs le jeu de ce format baroque au cours avec son répertoire de prédilection allant de Frescobaldi, Cavalli en passant par Piazzolla ou encore Barbara Strozzi. Pour prendre vos tickets pour le festival d'Ambronnet, une seule adresse, festival.ambronnet.org.
Thank you.
Qu'est-ce que j'aime cette heure, Kessie Poffard et Barbara Srodi, interprétée ici par Mariana Flores, la Capella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcón, artistes qui seront donc présents le week-end prochain au Festival d'Ambrenais qui se tient jusqu'au 4 octobre en partenariat avec France Musique. Et puis, sachez également que les questions de société, d'environnement qui nous occupent chaque samedi dans cette émission seront aussi au rendez-vous du Festival d'Ambrenais avec un cycle de conférences baptisé Dialogue entre écologie et culture, animé par Dominique Bourg, Colline Serrault, Cyril Dion et Françoise Nissen en seront les invités de marque. Je vous rappelle donc l'adresse du festival, festival.ambrenais.org. Et c'est l'heure de notre choix musical à l'heure du petit déjeuner avec ce matin le claveciniste Jean Randon. Bonjour Jean.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci beaucoup.
Qu'y a-t-il sur la table de votre petit déjeuner?
Ah là, il y a un thé. J'ai pris un thé.
Oh, voilà, c'est pour, sobre.
Ah bah oui. Oui, toujours, la sobriété. Hein.
Ah oui, toujours, bien évidemment. Alors nous parlons ce matin du Bel Air Clavier Festival qui se tient à Chambéry. Troisième édition pour vous, hein, en tant que directeur artistique. Le festival s'est ouvert il y a quelques jours. Alors étant donné les circonstances un petit peu particulières, cette période intense, on va le dire, que nous traversons, Jean Randon, comment s'est passé le démarrage du festival?
Bah déjà il faut savoir que nous on a lutté pour maintenir le festival à tout prix. Enfin on avait vraiment besoin de pas tout de suite être du côté négatif de la situation, même si il s'est avéré après coup que quand même les choses ne se sont pas arrangées si vite, mais on a vraiment tenu à maintenir le festival. Et tous les musiciens qui viennent, le public, les bénévoles et les gens de l'équipe sont vraiment tous super contents que le festival puisse exister et qu'on puisse faire de la musique pour les gens en live. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment formidable.
Des aménagements particuliers ont été mis en place pour cette édition?
Oui, bien sûr, il y a des conditions sanitaires à respecter, bien entendu, que tout le monde respecte avec beaucoup de vigilance et de bienveillance. Donc voilà, bon, ça reste bon, un détail par rapport au festival, mais une sorte d'obligation nécessaire que l'on respecte, bien entendu.
Bien évidemment. Alors, cette édition a vu aussi sa programmation un petit peu bousculée, Jean Randon?
Légèrement, oui. Le gros de la programmation a bel et bien été maintenu. Mais c'est vrai qu'il y a, par exemple, il devait y avoir Naini Diabaté, chanteuse malienne qui vit au Mali, qui devait venir, mais qui a dû, enfin, à cause de toute cette situation et donc des conséquences frontalières qui en découlent, n'a pas pu venir. Voilà, quelques annulations par-ci par-là, mais sinon, nous avons vraiment maintenu le gros du festival. On a même ajouté un concert, parce qu'on s'est dit, bon, quand même, en fait, là, on peut faire de la musique live, autant en profiter. Donc, il y aura un autre concert dimanche pour clore le festival.
Un concert surprise.
Surprise, oui. Bon, je peux annoncer.
Allez, dites-le-nous.
Ouais, ce sera Léa Descendre, Thomas Dunford, Cyril Poulet, Hugo Abraham et moi-même, dans un programme début 17e, Monteverdi, Merula, Frescobaldi, tous ces compositeurs que l'on chérit énormément.
Et vous avez bien raison, ce sera à 18h au château de Caramagne. Un petit mot quand même, puisqu'il reste deux jours de festival, hein, Jean Rondeau. Ouais, Bel Air Clavier Festival qui porte bien son nom, puisque un maximum de claviers différents sont représentés. Il reste encore quatre autres concerts, vous nous en dites quelques mots, Jean.
Alors, cette année, on a voulu également représenter le carillon, puisqu'il y a un carillon à Chambéry qui est l'un des plus grands carillons d'Europe. Donc, on n'avait jamais fait ça et on est toujours un peu à l'affût des nouveaux claviers qu'on peut représenter. Le campus, ce sera voilà en plein air, en pleine ville, donc c'est sympathique. Après, il y aura un programme dont Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui a joué déjà dans le festival avec les surprises, dans un programme qui était autour des Sœurs Boulanger. Et c'était une magnifique soirée avec Eugénie Lefebvre au chant et Lucille Berthomier à la harpe. Et ben il revient demain avec un programme plus contemporain.
C'est aujourd'hui, Jean.
Voilà, c'est aujourd'hui à
15h.
À l'espace Malraux. Et ça mêle l'orgue à bouche japonais, l'accordéon, donc un clavier supplémentaire, l'orgue et les machines, enfin la musique électronique. Donc c'est un peu un projet hybride. Donc d'ailleurs, je suis assez impatient de découvrir les sons en live. Quoi. Enfin,
j'avoue que le programme est alléchant.
Ouais.
Demain,
ouais,
Jasmine Toccata, tout à l'heure, qu'est-ce
ce
que je raconte
soir, ouais,
je... Décidément, ouais. Ce sera à 20h avec Kevin Chemirani et Thomas Dunford et vous-même, Jean. Et puis demain, cette fois à midi, une session Jeune Talent avant le concert surprise que vous évoquiez. Vous nous dites un petit mot, Jean, sur votre choix musical ce matin. C'est une grande pianiste japonaise que vous avez choisi de nous faire entendre.
Oui, alors c'est Momo Kodama qui est venue jouer, en fait qui est venue faire le concert d'ouverture du festival cette année. Et en fait, on avait réfléchi surtout aussi à faire venir un programme assez particulier, puisqu'il s'agissait des 20 regards de l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen, qui est une pièce dont, à mon avis, il faudrait que j'évite de dire tout mot pour la décrire, tellement elle est sublime et puissante. Et à vrai dire, assez peu de pianistes jouent quand même cette œuvre. Et Momo Kodama fait partie de ces grands pianistes qui abordent l'œuvre de Messiaen, qui la défend. Et donc, elle a bien accepté de venir nous faire ce concert. Et c'était un moment... pareil, où c'est difficile de trouver des mots, mais assez transcendantal, qui nous a tous transportés. Et donc voilà, bah, le choix musical, c'est un extrait d'un album qu'elle a fait qui s'appelle Point and Line, d'un compositeur japonais. Alors, j'ai découvert en fait là récemment, j'ai oublié le nom.
Toshio Ozokawa.
Ça mélange avec du Debussy.
Un magnifique album paru chez OCM, effectivement. On va l'écouter. Merci beaucoup, Jean Rondeau. On vous souhaite encore plein de succès pour ces deux jours de festival restants. Une adresse,
merci
chers
beaucoup.
Auditeurs, pour prendre vos places, www.rencontre@belair.com. Toutes les informations sont aussi sur la page de Musique Matin sur francemusique.fr. Jean, à très bientôt.
À très bientôt, Saskia. Merci beaucoup. Thank you.
Two Lines, première étude de Toshio Ozokawa, interprétée ici par Momo Kodama. C'était le choix musical de Jean Rondeau. Et je vous offre ce matin un disque, Une soirée chez Berlioz, album enregistré par la sublime Stéphanie Lustrac, le guitariste Thibaut Roussel et le pianiste Tanguy de Villancourt, disque paru chez Harmonia Mundi au programme des romances qui dévoile une facette peu connue de Berlioz, Hector Berlioz, qui chantait en s'accompagnant à la guitare lors de soirées entre amis. Parmi ceux-ci, des figures comme Franz Liszt ou encore d'autres moins connus comme Nicolas Dallérac ou encore Charles-Henri Plantade que nous allons entendre. Un répertoire intime à découvrir donc au disque pour tenter votre chance. Rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez vos noms, prénoms et adresses postales complètes. Et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être ce disque dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner la tessiture de Stéphanie Lustrac. Est-elle contre-ténor, alto ou mezzo-soprano? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Stéphanie Lustrac, accompagnée par Thibaut Roussel, avec Bocage que l'horreur de l'aurore de Charles-Henri Plantade. C'est pas la même chose. Disque paru chez Harmonia Mundi que vous pouvez gagner ce matin sur francemusique.fr.
Salut à tous. En cette rentrée, Guitare Guitare rend hommage au grand guitariste et luthiste Julian Bream. De la musique élisabéthaine à sa collaboration avec Benjamin Britten, il a révolutionné le monde des cordes pincées. Portrait en quatre volets de ce musicien plus grand que la vie, à réécouter en podcast sur l'application Radio France.
En partenariat avec le magazine Guitare Classique.
Bonjour, c'est Marina Chiche. Ce dimanche, c'est l'arrivée du Tour de France. Rejoignez-moi sur France Musique et francemusique.fr dans « Vous avez dit classique, chiche » de 14h à 16h pour une célébration en musique du Tour de France et du vélo. Si, si, le vélo et la musique ont des choses à se dire. Alors, on se dit à dimanche, 14h, chiche!
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure d'accueillir Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Pour votre chronique battement de cœur. Alors je sais que vous aviez plein de sujets sérieux en tête, mais finalement, vous y avez renoncé.
Oui, j'ai pensé que dans la période un peu compliquée que nous traversons, quelques joies musicales ne nuiraient pas. Retrouvons donc l'Amérique chantante et polyphonique des années 50-60 avec les cordettes, les cordettes.
Quel bonheur d'écouter ça de grand matin, j'adore. Mais dites-moi Marc-Olivier, qu'aimez-vous dans leur chant?
Ben, évidemment, le caractère très joyeux de cette musique, c'est pas si facile d'exprimer la joie, mais aussi le fait que, mine de rien, ces musiques de divertissement sont très savantes. Les arrangements sont absolument formidables, très bien écrits pour la voix, des harmonies délicieuses, très très maîtrisées, une écriture des quatre voix comme ça, tour à tour alternées ou groupées, des petits blocs comme ça qui se baladent joyeusement, une prosodie sublime, même quand les paroles sont complètement à la limite du ridicule.
À ce point-là ?
Ben, vous verrez avec Lollipop un peu plus tard. Mais en tout cas, tout ça est une merveille d'équilibre. Et pour résumer, c'est une sorte de quatuor d'une virtuosité aussi extraordinaire que discrète.
Y a-t-il un équivalent chez les garçons ?
En quelque sorte, avec les Jersey Boys, et notamment il y a cette chanson Sherry, où vous entendrez un garçon qui chante en voix de tête, et c'est totalement délirant.
Oh, what the heck? I'm gonna play it again. So put down that girl and lend an ear to the Four Seasons.
Sherry.
Je crois que soit des vies qui sont avec nous en studio apprécient beaucoup vos choix musicaux ce matin, Marc-Olivier. Vous aimez,
merci.
Vous ?
Alors moi j'adore. Là aussi les arrangements sont formidables, j'y reviendrai. Et même s'ils ne chantent pas très juste, voire même assez faux. C'est rare que j'aime de la musique mal chantée et faux, mais ce groupe me plaît beaucoup. Alors sur les arrangements, je voudrais dire une chose, c'est qu'on a... dans toutes ces musiques, il y a des arrangements absolument sublimes. Et je regrette beaucoup qu'en France, finalement, dans la variété française, on n'ait pas, au fond, des arrangements de cette qualité. Pourtant, il y a plein d'arrangeurs formidables dans ce pays, tous issus des grands conservatoires, mais qui ont des virtuosités d'écriture formidables. Et au fond, on n'entend pas beaucoup cette virtuosité-là dans la chanson française actuelle. Donc, retrouvez-vous les chanteurs et les arrangeurs, parce que ça donne des résultats absolument magnifiques. Et je ne peux pas résister, il faut revenir aux cordettes avec Lollipop. Les paroles ne sont pas, c'est pas du Henry James ou la grande littérature, mais ça commence par un délicieux petit canon.
Oh, my baby, lollipop, there you are. Sweeter than an apple pie.
les Cordettes, Lollipop.
Oui, délicieusement joyeux.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette joyeuse chronique à réécouter sur francemusique.fr. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir.
Et puis un bon samedi à vous.
Merci beaucoup.
Le troisième mouvement du premier concerto pour piano de Frédéric Chopin avec le Royal Scottish National Orchestra, Liam Shannon à la direction. Et au piano, Benjamin Grosvenor, jeune pianiste anglais en résidence cette année à Radio France, qui jouera d'ailleurs jeudi prochain aux côtés de l'Orchestre National de France et Christiane Mathieu-Laroux pour le concert à 20h. Il jouera le deuxième concerto pour piano de Sergei Rachmaninov. Un concert à venir entendre ici à la Maison de la Radio. Bien écouter sur francemusique.fr puisque le concert sera retransmis en direct sur France Musique avec Benjamin François à la présentation. Il est 8h15. Et c'est lors de notre reportage. Toute cette semaine, à la Philharmonie de Paris, se tenait le concours La Maestra. Concours lancé par Claire Gibault à la tête du Paris Mozart Orchestra. La compétition réservée aux femmes chefs d'orchestre s'est terminée hier. Sur 220 candidatures, 12 avaient été retenues. Et sur ces 12 candidates, il n'en restait que 3. Sophie Anastasio a assisté pour nous à la finale.
C'est avec la candidate Stéphanie Childress qu'a démarré la finale de la Maestra. La chef dirige Was Beethoven African, création de Fabio Vacchi. L'ultime épreuve du concours a été introduite par un discours de Laurent Bayle, directeur de la Philharmonie, et Claire Gibault, chef à l'origine du concours. Tous deux ont rappelé les inégalités profondes qui persistent entre les femmes et les hommes dans la musique. L'égalité devrait être une évidence. À quelques heures de la fin de cette première édition, Claire Gibault a également fait part de la semaine extraordinaire passée à la Maestra. On l'écoute à notre micro.
Ça rend tout le monde heureux. C'est extrêmement passionnant. On voit la diversité des talents de ces femmes. et tout le monde me dit que le niveau du concours est extrêmement élevé, que l'orchestre joue sublimement bien. Et puis nous, on voit, on vibre, on est passionnés, on a des émotions, même des petites larmes. Quelquefois, ça nous dynamise tous, l'orchestre est très heureux. Ils ressentent ça comme quelque chose de tellement spécial qui n'a jamais existé. Et oui, on vit une très belle aventure.
Au cours de la soirée, les trois finalistes, la franco-britannique Stéphanie Childress, la colombienne Lina González-Granados et l'américano-indonésienne Rebecca Tong ont dirigé trois œuvres avec des styles très différents. Elles étaient sous l'œil du jury présidé par la chef Eva Bogouchmor. Toute la semaine, les jurés ont observé le travail des candidates à la tête du Paris Mozart Orchestra qui s'est très volontiers prêté au jeu. Comment les départager ? On écoute le membre du jury, Maxime Pascal.
On écoute les chefs, c'est ça le plus important, c'est-à-dire que oui, on les regarde un peu, mais en fait, c'est pas très intéressant de. Je trouve, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est pas très intéressant de regarder. Ce qu'il faut, c'est écouter comment ça sonne. Écouter justement et observer comment les chefs créent les conditions d'écoute. Les conditions d'écoute du son entre les instrumentistes, les conditions d'écoute pour l'orchestre et les conditions d'écoute pour le public. Comment elles créent les conditions pour pouvoir entendre ce qui est écrit dans la partition.
Initialement, le concours devait se tenir en mars dernier. International, il rassemble de très nombreuses nationalités. Ça n'a donc pas été simple à organiser en cette période de crise sanitaire mondiale, nous explique Claire Gibault.
Ça a été un travail énorme entre l'équipe du Paris Mozart Orchestra, l'équipe de la Philharmonie, en relation avec le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur, et quelquefois les documents laissés passer spéciaux pour cette période de restriction de voyage arrivaient aux candidates au moment où elles étaient en route vers l'aéroport. Imaginez, il fallait qu'elles aient du courage, de la détermination. Voilà.
Membre du jury, la chef Marine Alsop, visiblement très émue, a dévoilé le nom de la gagnante, Rebecca Tong. Cette dernière nous a livré ses impressions juste après. Je suis très reconnaissante. Je suis vraiment un peu sous le choc. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Ce prix représente pour moi la possibilité d'encourager d'autres femmes chefs d'orchestre, plus jeunes, qui ont peut-être moins d'opportunités. Je veux les encourager à poursuivre leur carrière. Bien sûr, ce prix offre de la reconnaissance, des gens reconnaissent votre talent. Mais moi, je veux aussi encourager encore plus de femmes chefs d'orchestre à foncer. Les lauréates vont ensuite être accompagnées par l'Académie Maestra. Un prix, ça ne suffit pas à démarrer une carrière, explique Claire Gibault. Elles pourront ainsi diriger, suivre des masterclass. Et pour la Maestra, un prochain rendez-vous a d'ores et déjà été donné en mars 2022. En espérant que d'ici là, le nombre de directrices musicales à la tête d'ensemble aura évolué. Il est aujourd'hui de 6%.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et voilà donc pour ce concours la Maestra. Et puisque nous parlons de chef d'orchestre, sachez que l'Opéra de Tours vient d'annoncer la nomination à sa tête du chef d'orchestre Laurent Campelone, chef passionné par le répertoire français. On pense à Jules Massenet et à Jacques Offenbach aussi, que voici Laurent Campelone à la tête donc de l'Opéra de Tours. Et ici, à la tête de l'orchestre de la Radio Dominique dans cette ouverture, les bergers, Jacques Offenbach.
Thank you.
l'ouverture des bergers de Jacques Offenbach avec Laurent Campone à la direction de l'orchestre de la radio de Munich. Et nous restons dans le domaine de l'opéra avec le menu de l'émission samedi à l'opéra tout à l'heure, ce soir à 20h avec Judith Chen, Madame Butterfly de Puccini dirigé par Philippe Jordan, concert donné en septembre dernier à l'opéra d'État de Vienne avec la soprano Asmik Grigorian et le ténor Freddy Di Tommaso. En voici un petit avant-goût avec cet air si célèbre, Un beau jour, nous verrons une belle divedremo.
Thank you.
Asmi Grigorian, l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne. Philippe Jordan ici à la direction pour cette air, une belle divertissement de Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Opéra à écouter dans son intégralité ce soir à 20h sur France Musique dans l'émission Samedi à l'Opéra de Judith Chen. Il est 8h30.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et en cette semaine européenne de la mobilité qui a pour objectif d'inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Et puisque nous explorons chaque samedi comment l'écologie marque de manière de plus en plus intense de son empreinte le secteur de la musique classique, j'ai choisi de recevoir ce matin un claveciniste, un chef d'orchestre qui a troqué l'avion pour la petite reine, le costume pour un magnifique cycliste en polyester. Le temps d'une tournée avec son ensemble correspondant, c'était cet été en Normandie. Bonjour Sébastien Dossé.
Bonjour Saskia.
C'est une belle présentation, non?
Excellente.
Du 7 au 12 août dernier, vous avez sillonné le sud de la Normandie à vélo avec 9 musiciens. De votre ensemble, vous étiez déjà un grand cycliste avant de vous lancer dans cette aventure?
Pas du tout, c'était une plongée dans le grand bain directement.
Comment est né ce projet?
Ce projet, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis maintenant plusieurs années et qu'on voulait expérimenter cet été dans une petite campagne bourguignonne. Et puis finalement, la crise ayant balayé tout ce qui se passait normalement cet été, on s'est dit que on allait pas du tout faire ce petit galop d'essai, mais se lancer totalement tout de suite dans ce que pouvait être un projet comme celui-là, et en le menant du coup dans notre nouvelle région qui est la Normandie. L'idée, c'était de réagir déjà à la crise par l'action et par l'innovation, et de réfléchir à comment on peut proposer au public un nouveau visage de la musique classique, un autre visage, parce qu'on n'a pas l'intention non plus de renoncer aux concerts et aux disques. Très concrètement, rayonner sur un petit territoire, donc en prenant une carte, en prenant un compas, en traçant un cercle et en disant on va essayer de faire chaque jour un ou deux concerts dans une zone très restreinte pour circuler à échelle humaine. Donc là, cette fois c'était à vélo. Moi au départ j'avais pensé à dos d'âne, puis à cheval, mais finalement on est arrivé sur le vélo qui était en définitive une très très bonne solution. Et de partager plus que le simple concert, c'est-à-dire que on a proposé aux gens de nous suivre à vélo avec nous sur les trajets et on faisait entre 30 et 50 km par jour. On a proposé dans chaque lieu de faire des ateliers de découverte des instruments, de la musique baroque. On a proposé des rencontres avec des artisans qui faisaient des métiers un peu spéciaux comme les nôtres. Et puis, après chaque concert, on proposait aux gens de rester dîner avec nous en amenant leur pique-nique. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus global que simplement ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire simplement l'activité de concert. Et puis, pour nous, d'arriver sur un territoire en y allant franchement.
J'allais dire, vous avez vous-même constitué votre propre festival itinérant. Vous êtes allé rencontrer des gens sur place, des maires de villages pour demander à ce qu'ils vous accueillent. Comment avez-vous construit justement, au-delà du cercle avec le compas, cet itinéraire-là?
C'est un projet qui s'est mis en place au fur et à mesure qu'on l'imaginait, qu'on l'expérimentait, parce qu'on l'a mis en place en un temps très très limité. Ça s'est fait pendant le confinement, enfin à la fin du confinement. Donc on a rencontré beaucoup de partenaires, d'acteurs locaux. Alors oui, des municipalités, mais surtout beaucoup d'associations, beaucoup de lieux de patrimoine qui se battent au quotidien pour faire vivre et restaurer leurs lieux. Donc c'était vraiment l'idée d'échanger avec des gens qui sont pas les programmateurs ou les festivals habituels, même s'il y avait l'Abbaye de l'Essai, mais la plupart, enfin tous les autres étaient des lieux où il n'y a pas forcément de musique d'habitude. Donc c'est, je pense qu'on est parti sur un, comment dire, une impression de bonne volonté générale. Tout le monde avait envie qu'après cette crise, on imagine des choses, on refasse de la musique, on travaille ensemble. Donc voilà, le montage lui-même, il est plein d'embûches, et puis sur un projet qui n'existe pas non plus auprès des financeurs, c'est-à-dire que c'est pas un projet qui est repéré, qui entre dans des lignes. Donc il a fallu un petit peu se battre pour qu'il puisse exister quand même. Mais voilà, je peux dire que vraiment on a fait face à une bonne volonté générale.
de la part des artistes aussi, parce qu'il faut une sensibilité des artistes même que pour pouvoir ou vouloir du moins enfourcher un vélo à 8 heures du matin alors qu'on a joué la veille, ouais. et qui plus est pour jouer par la suite plus tard dans la journée. L'ensemble correspondance, dont vous êtes le chef, Sébastien Dossé, a mis en place une charte environnementale il y a 3 ans déjà. En quoi consiste-t-elle? Pourquoi avoir eu envie justement de prendre ce chemin-là?
Ben, je pense que c'est une sensibilité qu'on partage aussi avec les musiciens, puisque vous parliez d'eux tout à l'heure, et c'est une idée qui est venue du bureau, c'est-à-dire des personnes qui travaillent au quotidien pour l'ensemble. C'est Céline Porte et Solveig Barbier, en l'occurrence, que vous avez reçu la semaine dernière.
Exactement, pour l'association Arviva dont on parlait la semaine dernière.
Mais donc avec elle, on a imaginé comment est-ce que notre métier pouvait lui aussi répondre à tous les enjeux écologiques d'aujourd'hui. Comment est-ce que, même si on est artiste et quelque part on est un tout petit peu à part dans la société probablement, comment sur ces questions d'écologie on ne peut pas se dédouaner. Donc voilà, on a mis en place un certain nombre de choses très très concrètes au sein de l'ensemble. Ça peut aller du remplacement total des anciennes bouteilles d'eau du XXe siècle en plastique remplacées par des gourdes. Ça peut être la relation qu'on a avec tous les hôtels, et on ne fait que voyager, donc pour l'ensemble c'est 1500 nuits d'hôtel par an, de demander à ces hôtels de ne pas mettre d'objets en plastique, des shampoings, des trucs comme ça, de pas changer les serviettes, de pas faire le ménage quand on est moins de 3 jours, de privilégier les circuits courts pour les petits déjeuners. Pour nous, c'est aussi plutôt privilégier le train plutôt que l'avion, c'est compenser notre empreinte carbone quand on voyage en avion. Donc voilà.
Je crois qu'il y avait une tournée au Mexique l'an dernier, vous avez payé une compensation carbone. Pour qu'on ait une petite idée quand même, il s'agit quand même de 4 500 € à ajouter à votre budget que vous avez distribué entre deux associations, une en France, une au Mexique, justement pour ce projet-là.
L'ensemble bien correspondance... qu'on soit pauvre comme job.
Voilà. Finalement.
Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est pas l'écologie, l'effort écologique qu'on peut tous faire. Il est pas lié à une situation
de confort. À des moyens financiers.
C'est un choix, et même si on est déficitaire sur un projet, même si on galère au quotidien pour trouver 2000 euros de subvention, on fait ce choix-là.
Il y a effectivement aussi une autre donne. L'ensemble correspondant, c'est 40% de la saison à l'étranger. Je me rappelle, vous m'aviez dit il y a quelques mois de cela, Sébastien Dossé, que c'était la première fois que vous aviez eu une discussion avec vos musiciens. Il était question d'une tournée en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Pour la première fois, vous avez eu des musiciens qui sont opposés à cette tournée parce que sur place, vous n'alliez rester seulement que quelques jours et ça ne valait pas le coup. En termes d'empreinte écologique.
Ouais, alors ils se sont pas opposés, mais c'est vrai qu'il y avait des réticences, et c'est vrai que c'est un moment où justement nous on était en train de réfléchir à ces questions d'écologie, et cette réflexion des musiciens, elle participe aussi à cette prise de conscience générale qui fait que on a envie de s'investir concrètement, on a envie de réfléchir à un modèle de circulation, parce qu'on ne doit pas renoncer à la circulation, c'est fondamental pour des artistes de bouger
à l'international,
en Europe, etc. Et je pense que cette question-là, à la fois, on doit continuer à poursuivre les grands projets de diffusion internationale, et en même temps, il faut que ces projets ils soient raisonnés. C'est-à-dire que ça paraît aussi d'un autre monde, l'idée du super soliste international qui un soir se fait un selfie à Berlin, le lendemain à Londres, le surlendemain à Genève. Bon, ça continuera d'exister quelque part, mais je dirais que c'est plus le modèle dont on rêve pour constituer une notoriété. Aujourd'hui, on peut se dire que on fait une grande tournée internationale par an, que si on va aux États-Unis, on essaie de faire au moins 10 concerts, et que certes, on va tous voyager pour aller là-bas, mais une fois qu'on est là-bas, on fait plein de choses, on a beaucoup de concerts. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus amené, et c'est vraiment souhaitable, à réfléchir à la manière dont on circule, parce qu'il faut continuer de circuler absolument, mais il faut le faire de manière plus raisonnée, plus intelligente.
Un extrait de ce disque des plaisirs du Louvre de l'ensemble Correspondance, rare fleur vivante peinture, François de Chancy, Sébastien Dossé à la direction, Sébastien Dossé qui est notre invité ce matin, disque paru chez Harmonia Mundi en partenariat avec France Musique. Un autre disque va paraître d'ici quelques jours, on en écoutera un extrait tout à l'heure. Sébastien, comment repense-t-on justement la production aussi, peut-être la création en cette période particulière? Est-ce que produire du disque, produire du spectacle chaque année, de nouveaux projets, de nouveaux spectacles, de nouvelles productions, est-ce que c'est aussi indispensable? Est-ce qu'il faut penser peut-être autrement? Est-ce qu'il faut évoluer vers autre chose?
Moi, je pense que dans l'ADN des ensembles indépendants, peut-être à l'inverse des structures plus institutionnelles, il y a ce changement, il y a cette évolution permanente. Quelque part, on existe dans un milieu très très concurrentiel avec beaucoup de distorsions de concurrence entre les grandes compagnies subventionnées et les ensembles moins subventionnés. On existe parce que on est mobile, parce qu'on est agile. Quelque part, on ne fait que en permanence réfléchir à comment évoluer, comment changer nos modèles. Par exemple, si on reparle de cette tournée à vélo, comment on monte un projet qui n'existe dans aucune case? Comment est-ce qu'on arrive à fédérer les acteurs autour de nous, les partenaires, pour que ça puisse exister? Bon, évidemment, on est en temps de crise et avec des plans d'urgence, des plans de relance, donc les collectivités, l'État, je pense, réagissent globalement. Après, c'est comment faire en sorte que les ensembles indépendants soient bien partie prenante de cette relance.
Oui, de ce plan puisse profiter à leur tour aussi de ces aides de l'État.
Donc là, concrètement, pour ce projet, le théâtre, d'abord le théâtre de Caen où on est en résidence, et puis la ville de Caen nous ont tout de suite soutenu, la DRAC et donc l'État aussi, la Caisse des dépôts qui est encore pour cette année notre grand mécène nous a soutenu, et puis ces projets, ils se bouclent parfois même après que le projet soit réalisé, donc là par exemple la région Normandie vient de valider une petite aide la semaine dernière pour un projet qui était il y a un mois, donc tout ça contribue à dire que je pense que les acteurs sont tous de bonne volonté parce que on prend des risques financiers, on prend des risques aussi sanitaires, même si tout s'est très très bien passé. On était les premiers, les ensembles indépendants, les premiers sur le front dès juillet. Oui, je pense que c'est important que là, dans tout ce qu'on imagine plus globalement sur le plan de relance, on soit pas les derniers. Or, ce qui se dessine aujourd'hui, clairement, c'est que tous les ensembles indépendants vont souffrir violemment dans les semaines qui viennent. La première chose à dire, c'est que le plan de relance de l'État pour la culture, pour le spectacle vivant, qui est en centaines de millions d'euros, ne consacre que 30 millions aux orchestres, tous les orchestres, à tous les opéras, à tous les festivals et à tous les ensembles réunis. 30 millions pour toute cette population-là à mettre en regard avec 81 millions pour le seul Opéra de Paris. Donc je pense que le signal que ça donne est très très inquiétant. Toutes ces compagnies qui sont légères, agiles, économiquement très viables et qui produisent l'excellence culturelle française sont clairement remisées très 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 loin derrière avec ce qui prévoit d'être des clopinettes. La deuxième chose, c'est que le fonds de compensation qui est imaginé aujourd'hui par le ministère pour avec 100 millions d'euros compenser les jauges réduites des théâtres, ce fonds de compensation va exclure tous les acteurs subventionnés, c'est-à-dire tous les ensembles qui ont même 1% de subvention, et puis surtout tous les théâtres qui les accueillent. Donc ça, c'est quelque chose qui va être dramatique là dans les semaines à venir. Je pense à des endroits comme le Château de Versailles qui produit énormément les ensembles indépendants. Je pense à des endroits aussi qui vont bénéficier, parce que ce sont de grands vaisseaux aidés par le ministère de la Culture, à des endroits qui vont bénéficier largement du plan de relance et pourtant qui vont abandonner le spectacle vivant. Voilà.
C'est un endroit en particulier ?
Je pense au Louvre, par exemple. Donc, je suis très, très, très inquiet pour les jours, les semaines à venir, pour tous les ensembles comme correspondance. Et on est nombreux à faire ce travail de fond, à participer à la diversité culturelle française et à l'exporter. Mais là, ce qui se dessine aujourd'hui, pour nous, c'est un tunnel absolu.
On va continuer à suivre évidemment ces questions, Sébastien Dossé, et puis ces inquiétudes aussi pour le spectacle vivant. On va déjà devoir se quitter malheureusement. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin de ces questions, de ce plan de relance, de cette tournée à vélo un peu plus joyeuse évidemment. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de France Musique, Sébastien Dossé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis j'annoncerai quelques dates de concert à l'issue de ce que nous écoutons. Un extrait de cette messe à quatre chœurs de Marc-Antoine Charpentier, extrait du tout nouveau disque à paraître de l'ensemble Correspondance avec Sébastien Dossé. Quelques dates de concert à annoncer demain à 15h15 et à 17h. L'ensemble Correspondance se produira à la chapelle du musée de la tapisserie à Bayeux. Les 7 et 8 octobre prochains, reprise de ce merveilleux ballet de Royal de la Nuit, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et puis du 23 au 25 octobre à Caen et les 18 et 19 novembre à l'Opéra de Lille. Allez voir absolument cette production, c'est à ne pas manquer. Et le 9 novembre prochain, Plaisir du Louvre, dont nous écoutions un extrait de ce disque tout à l'heure, ce sera à l'Auditorium du Louvre. Il est 8h51.
Cher auditrice.
Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Poulenc au programme ce matin.
Ron Poulenc, oui, voilà, je vais vous parler d'une de ses premières œuvres et d'une de ses dernières œuvres. Plutôt d'une de ses dernières œuvres. On écoute Rhapsodie nègre là pour le début. À quel âge il a à ce moment-là? Il est né en 1899, donc ça c'est en 1917, il a 18 ans, il est tout jeune. Ça lui ferme les portes du conservatoire, cette pièce. Malheureusement, je crois qu'il était très fan de Stravinsky, qui l'a aidé à publier un peu ses premières œuvres. Moi, ce que j'adore vraiment le Gloria. C'est assez tard dans sa vie, je crois que c'est 2 ans avant qu'il meure. Il a écrit ça en 59, le Gloria. Que dire? Oui, bah oui, c'est cette histoire de dualité entre une œuvre légère et une œuvre grave, en fait. Il est revenu au catholicisme, en fait, Poulenc, à la mort de son père. Je crois que c'est en 1935, ou en 1917. Et il revient ensuite au catholicisme avec des œuvres comme la litanie pour la Vierge Noire, une messe aussi, une messe en sol. Et Gloria, quoi. Donc voilà. Alors moi, j'ai vu sur le net, alors j'ai regardé sur YouTube l'orchestre de Radio France qui jouait ce Gloria avec Lorraine Michel soprano en invité, et il y a des haters dans les comments, il y a des gens qui disent que c'est pas du tout une œuvre sacrée, que il y a vraiment des gens comme ça aussi dans la musique classique, je découvre en fait. Et non, c'est vrai,
il y a Sébastien Doucet qui rigole.
Non, mais il y avait un type qui était là qui disait mais c'est complètement tout trop léger, il y a rien de divin, il y a rien qui élève l'esprit. Et alors moi, bon, il s'est fait tomber dessus heureusement par les fanboys de Poulenc, et je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. C'est super d'avoir quelque chose de léger, de grave en même temps. Alors Poulenc, il dit sur Gloria que c'est comme les tapisseries avec les anges qui tirent la langue, où il avait vu des moines bénédictins en train de jouer au foot. C'est ça que lui inspire le Gloria. Et alors, donc, moi, c'est l'Oda Mousté que j'adore. L'Oda Mousté, c'est le deuxième mouvement. Ça veut dire nous te louons. On va écouter, alors ça fait mi do sol si do sol mi mi. C'est vraiment du jazz, quoi, pour moi, direct, c'est du jazz. Je vous l'ai fait mis en loop le début. Et puis, je vous ai joué des accords en dessous pour que vous voyez à quel point c'est déjà du jazz. Ils sont déjà avant les années folles en train de traîner dans les clubs de jazz avec les amis du groupe des 6. Mais bon, ils font pas, le lendemain, ils vont pas traîner avec les jazzmen, hein. Ils vont pas s'afficher en terrasse de café avec eux, hein. Tout de même pas, quand même. Mais bon, on écoute l'introduction du second mouvement, l'Oda Mousté. Do, la, mi, fa, la, Je vous l'ai remis en boucle. J'adore ça. Do la mi fa. Si la fa mi fa sa. Et là, je mets des accords. Hein. Alors, je les ai joués maintenant tout seul. Do sol si do sol mi mi. Si mi re do si la sa la si la. Do la mi fa la le. La do si la sol mi fa sol. Bon voilà, c'est du plaisir sucré. Il y a des. Ouais, on va écouter la suite là. La suite. On réécoute l'intro et on écoute la suite. Vous allez voir les contretemps, comme c'est joyeux, comment ça pète. On écoute. On va entendre la suite là. C'est plein de changements de tonalité, c'est hyper frais. C'est un peu dans le style prairie de Copland là. Vous savez, le style open prairie quoi.
Effectivement.
J'adore ce truc. Bon voilà, ils ont déjà volé beaucoup au jazz. Les compositeurs français ont pris beaucoup au jazz. Et c'est ce qui me plaît, moi, là-dedans. C'est frais, quoi. On va écouter Quid Ceres, Ad Dexteram Patris. Oh là là, je suis désolé. C'est le bonheur, c'est le bonheur d'écouter ça. Alors on sent quand même que c'est anti-romantisme, moi je trouve. Et là on sent vraiment du jazz là pour le coup aussi. Écoutez ça. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, Saskia?
Vous?
Ah bon? Miserere nobis. C'est bon.
Le sucre. Je vous ai joué ça au piano. On écoute. Nuit céleste, ad dexterum patris, miserere nobis. Et puis. Bon, voilà, en bonus, si vous voulez, on a la suite. Voilà, moi j'entends du jazz et c'est ce qui me plaît là-dedans. Je trouve qu'on peut être grave et léger en même temps.
Faudrait le revisiter lors d'un de vos prochains concerts, Christophe.
Oh, j'ai d'autres choses à écrire. Hein.
Aussi, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Allez, je vous offre le nouveau disque de l'ensemble Correspondance et Sébastien Dossé. La messe à quatre cœurs de Charpentier, je suis sûre que ça va vous inspirer de belles choses aussi.
Superbe.
Merci beaucoup Christophe pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr.
Sans sueur.
Évidemment. À l'abri. Merci beaucoup aussi Sébastien Dossé.
Merci.
Superbe photo.
Et merci évidemment à toute l'équipe, Marie-Ferdinand, David Travailleur, Swat Boukorsa, Emmanuel Rose. Avant de nous quitter, un petit mot sur le concours de ce matin. Je vous offrai ce disque, Une soirée chez Berlioz de Stéphanie Doustrac, accompagné par le guitariste Thibaut Roussel et le pianiste Tanguy de Villancourt, disque Harmonia Mundi également. Il fallait deviner la tessiture de Stéphanie Doustrac. Une idée, Sébastien, Christophe?
Contre
mezzo-soprano.
Contre mezzo-soprano,
voilà. Exactement, mais voilà, les gagnants seront contactés et recevront ce disque dans leur boîte aux lettres. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin.
À réécouter sur francemusique.fr.